Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel, Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue en Espagne, bienvenue au Pays Basque, bienvenue à San Sebastián. San Sebastián en espagnol, Donostia en basque, Saint-Sébastien en français et même Sanse pour les branchés. Si San Sebastián, éternelle ville balnéaire au bord de l'océan Atlantique, a toujours été élégante, elle n'a pas toujours été paisible car pendant une quarantaine d'années, l'organisation armée indépendantiste basque ETA a terrorisé cette ville. Le merta y était, paraît-il, de rigueur. Mais les temps ont changé, l'ETA a déposé les armes à défaut de s'être dissoute et cette année, San Sebastián est capitale européenne de la culture, privilège qu'elle partage avec Wrocław en Pologne. Le thème de San Sebastián 2016 s'est imposé de lui-même. En espagnol, on dit convivencia, que l'on peut traduire par vivre ensemble. Carrefour de l'Europe est à San Sebastián ou à Donostia, c'est selon, c'est un peu comme vous voulez. Une heure, en tout cas, à la découverte de la ville et des Donostiara, c'est ainsi qu'on appelle les habitants de San Sebastián, à l'aide peut-être de quelques mots-clés comme convivencia, nous y reviendrons, mais aussi pinchos, concha et cuadrilla. Nous sommes joliment installés à la Tabacalera, qui est une manufacture de tabac transformée en un magnifique centre culturel contemporain. Et je vous présente les invités qui ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Xabi Paya, bonjour.
Bonjour.
Je peux dire gracias ou en basque, on dirait comment?
En basque, on pourrait dire eskerrik asko.
Mais c'est compliqué à dire.
Oui, sinon on peut dire peut-être mille esker.
Mais c'est encore un peu compliqué.
C'est toujours différent.
Alors, on va dire bonjour. Vous êtes le directeur du programme culturel de San Sebastián 2016. Anne Rodriguez Armendariz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici la directrice de la Tabacalera. Merci de nous accueillir chez vous.
Merci pour avoir venu.
Mirène Ascaraté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe à la culture à la municipalité de San Sebastián. Rochiane Fernandez, bonjour aussi.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Cinémathèque basque, mais pas seulement. Vous êtes aussi...
Je suis aussi membre du comité d'élection et sélection du Festival de Saint-Sébastien.
Car le Festival de Saint-Sébastien, c'est un festival important. On aura l'occasion d'en dire un petit mot. Sarah Lamari, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas basque, vous n'êtes pas espagnol, vous êtes...
Moi, pas espagnol, mais maman est belge.
Voilà, vous êtes belge, vous êtes de Bruxelles et vous êtes ici à Saint-Sébastien car vous êtes élève au Basque Culinary Center. On y reviendra évidemment plus tard. Et puis tout à l'heure, on entendra en fin de deuxième partie Rodrigo Samano qui est violoncelliste et étudiant au Musiken. Saint-Sébastien, c'est d'abord une très jolie ville, nichée au fond d'une baie entourée de collines verdoyantes. Et pour l'appréhender, je me suis laissé guider par Anna Inchausti. Nous avons emprunté un funiculaire brinque-ballon et nous sommes partis à l'assaut du mont Igeldo et de là-haut, on découvre la ville et la baie.
Ce que je trouve très très beau à San Sebastián, c'est que vraiment la mer, elle rentre dans la ville. Et ça, c'est difficile à voir dans d'autres villes. On a cette superbe baie avec l'île au milieu, la montagne partout.
Et cette fameuse baie qu'on appelle...
La concha.
La concha.
Ça veut dire le coquillage.
Et c'est vrai qu'elle a un peu la forme d'un coquillage. Là, tout de suite, on a une plage, une petite plage qui s'appelle...
Ondarreta.
Après, c'est...
La concha.
La concha. Et un peu plus loin, on ne la voit pas, mais on la devine, c'est...
La Furriola.
Et ça, c'est une plage que les surfeurs affectionnent.
Oui, parce que la concha et Ondarreta, c'est vraiment protégé, avec l'île au milieu de la baie. Et l'autre, elle est ouverte sur la mer, donc il y a beaucoup plus de vagues. Ici, c'est le quartier qui s'appelle l'Antiguo, qui veut dire l'antique. Hein, donc, c'est parce que l'origine se situait ici. Il y avait une chapelle dédiée à San Sebastián, et c'est de là que la ville va prendre le nom.
Et une ville agréable à vivre?
Très agréable. Et c'est la ville des 10 minutes. À chaque fois que vous demandez à quelqu'un combien de temps on y met pour aller n'importe où, toujours la réponse va être 10 minutes. 10 minutes. Et c'est vrai que c'est là la taille petite. En tout, on est 186 000 habitants. Donc vraiment, la taille, elle est à la taille humaine. Hein,
la taille humaine.
Vous dites ça aussi, oui.
Alors, sans refaire toute l'histoire de San Sebastián, Mireille Ascaraté, la renommée de la ville commence dans les années 1900.
Bon, je crois qu'au commencement du XXe siècle, Donostia, San Sebastián est devenu un peu comme Biarritz, une cité pour les aristocrates, une cité de pour l'été, pour passer quelques semaines en été pour la famille royale. Et alors, on a bâti le casino qui est à présent la mairie. On a bâti les funiculaires et le Monte Igeldo et la thalassothérapie de la Perla. Des équipements et des bâtiments qui ont donné à Saint-Sébastien cette caractère peculier et beaucoup de petites maisons, de villes tout au long de la Concha et presque tout ont disparu à présent. Et alors ça a été un peu une ville de loisirs et de grands bourgeois, des aristocrates. Et une ville où je pense qu'il y avait encore une grande distance entre le peuple et les riches.
Alors, est-ce que ça veut dire que les 200 000 habitants, j'ai arrondi de Saint-Sébastien, ils se la coulent douce, Rosiane Fernandez?
C'est-à-dire, je ne suis pas très objectif là-dessus. C'est-à-dire que quand je parle de Saint-Sébastien, je pense que je parle de la ville la plus belle au monde. Peut-être parce que je suis né ici, peut-être parce que j'ai vécu pendant très longtemps ailleurs et j'ai appris à aimer une ville qui me manquait beaucoup. Et donc, je pense que oui, c'est une ville magnifique. Quand on veut y habiter, c'est une ville qui nous donne la mer, qui nous donne la montagne en même temps, qui a une culture, je dirais, une sorte de convivialité, n'est-ce pas? On parlera après peut-être du vivre ensemble, etc. Mais je pense qu'il y a une vraie convivialité quand on traverse, quand on se promène dans le vieux quartier de la ville, par exemple. Je pense que ça fait le charme de Saint-Sébastien, tout à fait.
Anne Rodriguez-Salmanderit, vous ne démenteriez pas, j'imagine, Rosiane Fernandez. La ville est incroyablement propre, elle est majestueuse architecturalement. Et d'ailleurs, où on est ici à la Tabacalera, il y a ce côté magistral, majestueux de l'architecture, qui donne l'impression d'avoir été dans un temps passé une ville impériale.
Oui, c'est vrai, et je pense le même, mais c'est vrai que ces majestuosités, c'est un peu trop de temps en temps, et on a besoin de voir des trous, non, des, un peu en façon plus industrielle, plus moche, mais on ne les trouve pas. Mais je crois qu'on doit réfléchir sur la région aussi. Saint-Sébastien comme ville, c'est magnifique. Et la région aussi, et c'est tout proche. Et comme Rochin disait, on a la mer, on a les montagnes. Et on a besoin d'un peu plus de mélange, peut-être, que ça vient petit à petit avec les différents collectifs, peut-être des migrants. Ça va vraiment enrichir la ville et la région.
Alors, Saint-Sébastien est une ville très belle, on l'a déjà dit, on l'a déjà compris. Mais pendant environ une quarantaine d'années, à partir des années 70 jusqu'en 2011, ça a été une ville martyrisée par le terrorisme de l'organisation armée ETA. Alors, je dis terrorisme, est-ce que c'est un mot que l'on emploie ici, chez Bipaya?
Bien sûr, on peut utiliser le mot terrorisme, mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, que l'État finalement est arrêté. Et donc, on a commencé une nouvelle période. Donc, si vous connaissez bien les situations comme ça, dans un conflit, la terminologie qu'on utilise, c'est toujours très important parce que ça nous met d'un côté ou de l'autre. Donc, on est encore à reconstruire ça. C'est vrai qu'on est à la ville, moi, je pourrais dire, je suis pas de Saint-Sébastien, mais je dirais que c'est peut-être la ville la plus belle du monde. On peut dire que c'est la ville, par exemple, qui a plus de toiles Michelin par
mètre carré. On va y venir.
Simple, donc c'est une ville très très jolie, mais en même temps, dans le ranking, dans ces cas, elle est aussi la ville qui a plus de morts d'été, par exemple, en Euskadi, au Pays Basque. Donc c'est vrai qu'en même temps, c'est une très très belle ville, mais à l'heure de parler de la convivialité, on a des choses à améliorer.
Alors, soit Migraine Ascaraté, soit Josiane Fernandez, comment c'était Saint-Sébastien quand l'ETA terrorisait la ville, Migraine?
Je crois que l'idée que les personnes peuvent avoir quand ils vivaient et loin du Pays Basque et loin de Saint-Sébastien, j'en suis sûre, est une idée très différente de ce que nous avions et comment nous vivions le jour à jour avec l'État. Parce que nous étions conscients que le terrorisme d'État était là, mais en même temps, on avait une vie assez normal. Et chaque jour, on se levait, on allait travailler et on pouvait sortir mais avec des enfants. On pouvait aller dans la partie vieja, dans le vieux quartier. On pouvait se promener, aller au restaurant, aller au théâtre, au cinéma. Avec le terrorisme d'État, c'est bien qu'on avait des attentats. C'est bien que de temps en temps, il y avait des morts et ça... était un choc pour la société, mais après la vie continuait et je crois que nous sommes rendus compte de tout ça une fois que l'État a cessé après les cessez-feux, quand on voit comment le tourisme a augmenté. Et beaucoup de gens de Saragossa, de d'autre part, ou de Asturias ou de Madrid qui disaient bon, j'ai peur d'y aller. Et on disait nous vivons normalement. Nous vivions normalement parce que nous avions, s'il y avait une démonstration, s'il y avait des problèmes, des grèves, quels endroits étaient un peu dangereux. Que c'était mieux peut-être de ne pas y aller, de rester chez nous. Mais on vivait le jour à jour avec, je dirais, beaucoup de normalité.
Roxane Fernandez, est-ce qu'il y avait du temps de l'ETA une certaine omerta à Saint-Sébastien ?
Je suis historien de formation, donc je parlerai plutôt de tout un contexte au XXe siècle. C'est-à-dire, il faut tenir compte que l'ETA est né en 1959. Les premiers attentats ont eu lieu en 68, n'est-ce pas? Et là, heureusement, je dirais, tout ça vient de finir, comme Xavi vient de le dire, depuis 5 ans, plus ou moins. Donc, et d'une façon définitive, j'insiste beaucoup parce que je pense très certainement que c'est une très, très, très bonne nouvelle. Il faut vraiment se féliciter tout ça. Donc, il y a eu tout un contexte politique et historique, puisque, voilà, j'insiste, 59, c'est le franquisme, c'est la dictature franquiste. 68, c'était toujours le franquisme. Donc l'ETA a duré trop longtemps, sans doute, trop longtemps.
La à période, partir de 1975, c'est tout de même la démocratie.
Exactement. Donc ça a été une période, je dirais, très difficile, de beaucoup de violence et beaucoup de douleur dans la ville de Saint-Sébastien et en général au Pays Basque, je dirais. Mais je pense que là, maintenant, on est en train d'affronter une nouvelle période, une période où les différences politiques entre les Basques ne nous amèneront jamais encore à la violence. C'est-à-dire, les différences politiques, il faut le régler d'une façon démocratique. Et je pense que là, maintenant, on est tous d'accord là-dessus, heureusement.
Année Rodríguez Amendarez, qu'est-ce qui a changé depuis 1911, le moment donc, où l'ETA ne s'est pas dissoute, mais a déposé les armes?
C'est vrai, je voudrais aussi parler de pas seulement ETA, mais aussi qu'est-ce qu'il il y avait de, comme Myrène disait, il y avait de démonstrations, il y avait, c'est ça qu'on parlait, Caleo Roca, c'était du.
C'est-à-dire, dans la rue.
Ouais. Un peu la soulevation, mais d'une manière très violente. Et on a grandi avec ça. Et je crois qu'on a normalisé. Et peut-être un samedi pour après-midi, nous promener et d'avoir des violences dans la rue. Et je crois qu'on a grandi avec ça. On l'a normalisé. Et quand on a amené des amis de la Catalogne ou de Madrid et on a vu qu'on vivait comme ça, c'était lui qui nous a fait voir vraiment que c'était pas une normalité, non? Comme personne, comme enfant et adolescent qui a grandi avec ça. Qu'est-ce qui a changé tout ça? On peut sortir dans la rue et sans avoir de peur qu'il va avoir une démonstration avec des violences après, ou qu'on peut parler de la politique de part. Parce que c'est vrai que des familles, des quadrillas qui vous commentez avant, je crois qu'il y avait des tabous quand on parlait de la politique, et parce que tout le monde savait si on est d'accord avec l'État ou pas, avec la violence ou avec la démocratie, mais il était un tabou. Et maintenant, je crois qu'on parle plus ouvertement dans la famille, dans les quadrillas, dans le travail. Et c'est pas un tabou, c'est un dialogue très démocratique.
On a compris chez Bipaya que Saint-Sébastien a retrouvé une certaine sérénité. Le thème que vous avez choisi pour toute cette année, Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture 2016. Alors en espagnol, on dit que vivencia, ça se traduit je crois par vivre ensemble, hein, vous êtes d'accord, c'est la traduction la plus proche.
Oui, voilà.
Alors est-ce que ça veut dire que c'est le moment de tirer un trait sur ce passé dramatiquement sanglant?
Oui, et pas seulement. Parce que c'est vrai qu'on ne pourrait pas dire que le seul problème que les Donostiarras avaient pendant ces 40 ans d'âne, c'était le théâtre. On a plus de problèmes, comme on disait, il y a des démonstrations, des problèmes économiques, des problèmes... On est une capitale européenne de la culture, et alors si on est au carrefour de l'Europe, je crois tout à fait qu'il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs choses qui nous affectent en tant qu'Européens. Et donc, on a préparé un programme pour en parler. Et finalement, promouvoir la culture du vivre ensemble, et qu'est-ce que ça veut dire? On va faire pendant toute cette année 400, 500 événements ou des ateliers, des conférences, des projets qu'on va développer. Et tous vont valoir la valeur finalement qu'ils vont être, ça va être de promouvoir les valeurs ou les outils pour améliorer cette convivencia ou cette vivre ensemble.
Alors comment ça se traduit culturellement dans les arts, voilà cette notion de convivencia, de vivre ensemble, comment ça se traduit dans les arts?
D'accord, donc par exemple, on vient de présenter aujourd'hui un projet, ça s'appelle Europa Transit, c'est un projet, c'est une ambassade qui va traverser, ça va rester pendant un mois à 10 villes européennes qui ont vécu un conflit. D'accord. Donc, par exemple, ça a commencé à Ceuta. Le deuxième qu'on a déjà fait, c'est à Belfast, en Irlande. Et donc, par exemple, le conflit de l'Irlande, c'est quelque chose dont on pourrait apprendre beaucoup. Donc, on a fait un documentaire, on a fait plusieurs projets. Et dans ces cas-là, c'était une philosophe qui a préparé une étude, un système, une méthode qui s'appelle la conversation socratique, le dialogue socratique. Donc, dans une table ou dans une salle, elle a réussi à avoir 6 personnes qui ont été reliées au conflit de l'Irlande et pendant plus d'une dizaine d'heures, ils ont parlé, ils ont suivi cette méthode qui a une certaine vinculation socratique, littéraire. Et donc, on a fait un documentaire avec ça et on va le présenter demain ici au Festival des droits de l'homme de Saint-Sébastien.
Alors ça, c'est un exemple. Vous avez évoqué une ambassade itinérante. Ça va se traduire comment? Voilà. Comment on va... On prend l'avion pour aller à Dublin, on prend l'avion pour aller à Sarajevo, par exemple.
Oui, c'est un autobus. Ça va aller à Sarajevo. Par exemple, c'est sorti de Ceuta, après Belfast, après c'était à Dresde, en Allemagne. C'est très intéressant ça parce que Dresde, la ville a été complètement détruite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle a créé des réfugiés et maintenant, c'est elle qui accueille les réfugiés. Donc, on veut voir comment est-ce que ça a changé dans l'histoire. Et la quatrième, de nos jours, on travaille à Wrocław, l'autre capitale européenne de la culture. Et là, il y a un projet qui est très, très joli, qui s'appelle la bibliothèque humaine. On peut aller dans une bibliothèque réelle, elle est là. Et au lieu de prendre un livre, on peut prendre un rendez-vous avec une personne qui a été discriminée. Ça peut être par...
Quelqu'un qui a été emprisonné, par exemple.
Oui,
par exemple,
ou qui a été discriminé par des raisons du sexe, de la religion. Et donc, on va s'asseoir avec cette personne et elle va nous raconter cette histoire. Donc, finalement, c'est qu'on va avoir un livre, mais c'est plus humain et plus présent.
C'est un livre qui parle.
Oui, voilà. Donc, on va faire le documentaire avec ça et voir comment la diversité est traitée en Pologne et concrètement en Wrocław.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture. On va revenir évidemment sur Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture. Mais là, on va faire une pause toute petite sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des dernières infos. À tout de suite.
Europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel, Victor Ouvrard.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours en Espagne, toujours au Pays Basque, toujours à San Sebastián, capitale européenne de la culture 2016. Je vous représente les invités qui ont pris place à la Tabacalera autour des micros de Carrefour de l'Europe. La Tabacalera, ce magnifique centre culturel contemporain qui a été historiquement une manufacture de tabac, qui a été merveilleusement restaurée. Xavi Paya, il est directeur du programme culturel de San Sebastián 2016. Anne Rodriguez Armendariz, elle est la directrice de la Tabacalera. Mirène Ascarete, adjointe à la culture à la municipalité de San Sebastián. Rossiane Fernandez, il est directeur de la Cinémathèque Basque. Sarah Lamarty, elle est à la fois belge et espagnole. Elle est étudiante au Basque Culinary Center. Et on entendra tout à l'heure Rodrigo Samano, violoncelliste et étudiant à Musicane. Alors, dans la première partie de l'émission, on a évoqué la ville balnéaire, l'histoire parfois tragique de San Sebastián, la sérénité retrouvée à travers notamment la programmation culturelle et artistique de San Sebastián 2016. J'aimerais qu'on parle un peu des Donas Tiara, c'est-à-dire les habitants de San Sebastián, et un peu de la basque attitude. Et dans les conversations avec les Basques que j'ai pu avoir ici, il y a un mot qui est revenu souvent, c'est celui de quadrilla. Vous l'avez déjà employé, Anne Rodriguez Armendariz. C'est quoi une quadrilla?
C'est comme la seconde famille que tu choisis.
Comment ça, une famille?
Oui, oui.
Il y a la famille, le papa, la maman, les enfants.
Les deuxièmes familles que tu peux choisir.
Comment ça se passe?
Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est le groupe des amis avec qui tu grandis et c'est une amitié pour toujours, non? Comme, un peu comme ça et n'importe
c'est un
quoi.
Peu à la vie, à la mort?
Un peu. Mais c'est vrai que les structures sociales ici au Pays Basque, je crois que peut-être plus en Guipuscoa, c'est très fort et c'est un peu fermé comme ça parce que pour pouvoir entrer dans un quadrilla, il y a du mal.
Un examen de passage?
Oui, un peu comme ça, un peu comme ça. Je crois que maintenant on est plus ouvert, mais c'est vrai qu'il faut comme une session d'intégration. Une fois que tu es dedans, c'est pour toujours aussi.
Mirène Ascarade, parlez-moi de votre quadrilla. D'ailleurs, on a une quadrilla ou on peut en avoir plusieurs?
Nous, il y a une quadrilla, mais cette quadrilla a changé et il reste quand même une de mes meilleures amies et nous sommes amies de l'école.
Donc quand vous étiez à l'école primaire.
Ah oui, dans les cas des femmes de ma génération, c'était très difficile de maintenir tes amis. La vie était avec ton mari. J'étais très heureuse et nous avons trouvé une quadrilla. Des couples, on a eu des enfants et on a ajouté d'autres couples pour des différentes raisons et on a continué à ajouter des personnes qui se sont trouvées un peu seules dans la vie, dans un certain moment. Je suis tout à fait d'accord avec Anne, c'est très 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 important. C'est la chose, le ressort le plus solide que tu peux avoir.
Alors, Rossiane Fernandez, par définition, vous aussi, vous avez une quadrilla.
Oui,
hein,
au moins une. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Mille. En plus, ça vient de l'école primaire, de 8, 9 ans, 7 ans.
Comment ça
même
se passe?
Je ne sais pas, pour moi, ça a été toujours quelque chose de très naturel, n'est-ce pas? Mon groupe d'amis les plus proches, quoi. C'est vrai que c'est peut-être un groupe un peu refermé, peut-être, etc. Mais ça a beaucoup de points positifs, à mon avis. C'est-à-dire que moi, je me dis toujours, si les choses se compliquent pour moi, à un moment donné, pour je ne sais pas quelle raison.
Parce qu'évidemment, on grandit,
voilà,
les problèmes arrivent,
on se marie,
parfois on divorce.
On peut parfois, comme disait Mirène, s'éloigner temporellement, n'est-ce pas, pendant une petite période, peut-être on se voit moins, je ne sais pas. Mais si les choses vont se compliquer à un moment donné, je suis sûr et certain que mes groupes d'amis de la quadrilla seront là pour me soutenir.
C'est-à-dire, si vous avez un problème, vous êtes soudain au chômage, vous avez un problème de cœur, quelque chose comme ça, vous les appelez, il s'est écoulé 30 ans, 40 ans,
absolument.
Vous pouvez décrocher le téléphone et dire j'ai un problème.
Je suis sûr, et c'est réciproque.
Et ils seront là.
Je suis sûr.
C'est un groupe de combien? De 5, 6, 10?
10, 15, 20 personnes.
7.
Pour moi, c'est 15, mais c'est...
Ah, c'est une grande quadrilla.
Un grand quadrilla, mais c'est rigolo parce qu'il y a des quadrillas de femmes et la quadrilla.
Mais j'allais y venir. Il y a des quadrillas de femmes.
Parce que mon copain, il a son quadrilla et j'ai mon quadrilla. Il y a des fois qu'on se mélange, mais pas toutes les fois.
À l'école primaire, on est, c'est souvent des écoles, soit de filles, soit de garçons. Donc c'est une, soit une quadrilla de filles, soit une quadrilla de garçons.
Oui, mais
Elles sont rarement mixtes.
Oui, mon école était mixte. Alors, c'était un choix aussi d'être sur le monde des femmes, mais ça a changé.
Jabi Baya.
Je ne sais pas exactement, mais quand j'ai vécu au Québec, moi, j'utilisais le mot « gagne ». Ça, c'était ma gagne. Pour expliquer qu'est-ce que c'est une quadrilla, je ne sais pas si on gagne. L'utilise partout dans la francophonie. C'est vrai que la quadrilla, c'est très normal ici au Pays Basque. Mais tu peux voir combien de personnes ont dans une quadrilla, si c'est dans une ville ou dans un village, si le village est petit, ça peut arriver que la quadrilla soit tout le monde qui a été né dans la même année. Et donc, tu vas voir qu'il y a 20 personnes qui ont été nées, je ne sais pas où, à Sisturkil, par exemple. Et donc, ils vont être tous ensemble la même quadrilla.
Mais alors, Rosane Fernandez, on a compris que c'est autour de 7-8 ans que ça se passe. Mais comment se forme la quadrilla? On est élu, on est choisi, ça se fait avec des mots, ça se fait avec des regards, ça se fait comment?
Je ne pourrais pas trop dire exactement. Je pense qu'il y avait peut-être des choses qui nous rassemblaient. Je parle de l'école primaire, puis on sortait peut-être le week-end, on allait vers la montagne ensemble, on allait jouer, faire du sport ensemble, etc. Et je pense que ça resserrait les liens. Et puis, après, il y a toute une traversée de la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, on a traversé pas mal de moments ensemble, les enfants arrivent, les mariages arrivent ou pas, etc. Et puis voilà, je pense que ça resserre les liens. J'ai 42 ans, donc ça fait 35 ans que je connais mes amis de la quadrilla. Donc là, c'est trop tard pour y arriver. C'est-à-dire que là, maintenant, on sera, je pense, amis pour toute une vie.
Aldé Rodríguez Calamendres, on a compris qu'il y avait une vie de votre quadrilla. Votre compagnon, il a sa quadrilla aussi, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Et elle ne se rencontre jamais.
Non, il y a deux fois que oui. Hein. Mais c'est vrai que chaque fin a un autre garçon avec un autre quadrilla. Alors, c'est une étude complète.
Alors, comment ça se passe la vie au quotidien? Vous téléphonez, vous écrivez, vous avez une carte postale
quand
vous êtes à l'étranger ou en vacances, ou vous rencontrez pour dîner, pour boire un verre? Comment ça se passe?
Je crois que c'est vrai que dans la vie, avec ça, quand on grandit, on a des autres groupes de amis. Non, c'est pas la quadrilla, mais c'est des groupes de amis vers l'université, la vie professionnelle, etc. Et alors, peut-être, on partage plusieurs moments avec les nouveaux amis. Peut-être l'amitié, c'est très fort avec la quadrilla. Et ça, la différence pour moi. Et aussi, une autre chose importante, c'est que quand il y a des fêtes dans les villages, toujours on fait un dîner avec la quadrilla. Et c'est peut-être l'événement, pas unique, mais un des événements principaux qui se soutient dans le temps.
Est-ce que ça veut dire que la quadrilla, c'est le reflet d'une société basque fermée ou pas? Quand on comprend la difficulté qu'on a à rentrer dans une quadrilla, sachant qu'on n'y rentre quasiment jamais, on est éventuellement toléré. Mirène Ascarate.
Ici, je suis la plus âgée. Alors, c'est vrai qu'il y a cette quadrilla. Après ça, nous avons peut-être une quadrilla de 12-14 personnes. Nous avons le nucleo duro,
le noyau.
Le noyau. Mais nous avons les bras ouverts pour tout le monde. Et même pour notre grand fête, les jours de Saint-Sébastien, pour Noël, pour l'été. Alors, ce n'est pas exactement une chose fermée, c'est la quadrilla. Ici, personne ne peut entrer. Ce n'est pas ça, pas du tout.
J'irai plus loin. Il y a des quadrillas élargis, n'est-ce pas? Et je vais vous dire, c'est une petite anecdote, mais ma femme, elle est française. Elle est très bien accueillie dans ma quadrilla. Même en étant française.
Est-ce que cette notion de quadrilla, c'est une part importante de l'identité basque?
Je crois que ça peut servir, comme Anne disait tantôt, la quadrilla a une fonction sociale, finalement, pour les fêtes, pour quelques moments. Et c'est vrai vrai, quand vous demandez est-ce que c'est possible d'avoir une quadrilla si on n'est pas été né ici, bon, c'est difficile. Je peux retraduire la question et faire est-ce qu'on peut avoir une confiance qui a été créée dès qu'on était petit si on arrive demain matin à Saint-Sébastien? Bon, on peut avoir bien sûr des amis, on peut avoir un groupe, on peut le faire. Et c'est comme ça que ça se passe finalement. On a plusieurs groupes d'amis, mais c'est vrai que la quadrilla, c'est peut-être le mot finalement, c'est, je ne sais pas si c'est identité ou identification, comment est-ce qu'on dirait. C'est vrai que c'est quelque chose qui passe ici, qui c'est à nous, mais moi, je n'aimerais pas que personne pense qu'on est fermé dans ce sens, parce que finalement, on ne l'est pas. On pourrait dire, je ne sais pas, ici par exemple, Saint-Sébastien, je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs groupes d'amis. Les langues, par exemple, Saint-Sébastien a été une ville toujours ouverte. Donc, et je pense par exemple à ce que Rochien mentionnait de sa femme, c'est très clair.
Alors, autre élément de l'identité basque, évidemment, la langue basque. Qui veut rebondir sur la langue basque est si compliquée à écrire, si compliquée à prononcer, à tel point que je ne me lance même pas dans quelques mots de basque. Mirène Ascaraté.
Oui, elle est membre de l'Académie royale de la langue basque aussi.
Alors, pourquoi c'est si compliqué le basque?
Non, c'est pas compliqué. C'est une langue assez distante des langues romanes comme l'espagnol ou le français, mais pas plus compliquée que l'espagnol pour un Finnois, par exemple. J'ai entendu dire à une femme qui venait de Finlande que pour elle être plus facile apprendre le basque que l'espagnol. Parce que l'espagnol a des différences de genre, des masculins, féminins.
C'est vrai pour les Finlandais et pour les Hongrois, mais pour tous les autres, c'est quand même plus compliqué.
Hein. Ah bon, pour tous les autres, et combien de langues est-ce qu'il y a dans le monde? On parle toujours de l'espagnol, du français, de l'italien, même de l'anglais. Mais si on voit ailleurs, si nous allons voir les langues de l'Asie, les langues de l'Inde...
Bon. Il n'y a pas de langue difficile. Le problème, c'est le point de départ. Si tu pars d'une langue qui s'est très, très éloignée de la grammaire ou la réalité du basque, ça va être plus difficile. Mais par exemple, la langue française, elle a une peculiarité. On ne dit pas octante en Belgique, oui. Et septante, on dit 80. Mais le basque fait la même chose, par exemple. Donc, il y a toujours des similarités à ce moment-là. Et moi, j'ai été professeur de basque en Angleterre et en France. Je peux dire que les Anglaises, quand on dit qu'on n'a pas de problème de genre, parce que le basque, c'est comme l'anglais, on ne dit pas le féminin ou masculin, on n'en a pas. Et il y a plusieurs choses. Donc finalement, pour un Anglais, pour un anglophone, c'est plus facile d'apprendre le basque que l'espagnol, par exemple.
Bon, on va pas se lancer dans une première leçon pratique de basque. Oui. Des basques, il y en a ici en Espagne, puis il y en a en France. Oui. Alors quand vous parlez des Bayonnais, par exemple, vous dites c'est des Français ou ce sont des basques?
Pour moi, ils sont des basques. Je sais que nous partageons une langue, une culture, et on est tout proche. Et nous nous identifions très, très facilement.
Ce sont quoi, des Basques du Nord? Comment vous dites, c'est ça?
Et pour nous, c'est... Et je ne sais pas maintenant, dans l'époque de Franco, on parlait beaucoup de l'autre côté. Bestaldea, et c'est des basques de l'autre côté.
Donc les Bayonnais sont des Iparralde, c'est ça?
Iparralde, c'est le nord.
Et pour les Bayonnais, vous êtes des
Egualde.
Du sud.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture. Il y a un sujet important que l'on n'a pas abordé encore, qu'on n'a même pas encore évoqué, c'est le manger, le bien manger, car Saint-Sébastien et plus généralement le Pays Basque en général, concentre le plus grand nombre de restaurants étoilés au kilomètre carré. Il y en a combien, Chabipaya?
17, je crois. 17. Oui.
17, 17 dans le Pays Basque ou...
Non, à Saint-Sébastien.
À Saint-Sébastien, oui. 200 000 habitants à peine et 17
étoiles Michelin.
Mais qui va dans ces restaurants?
Les Français, par exemple. Il y en a beaucoup qui viennent, mais c'est vrai, il y a du monde, c'est très connu. Je dirais c'est Saint-Sébastien, l'aire urbaine ou métropolitaine, mais ils sont très connus et c'est pour ça peut-être que l'autre école de la cuisine ou l'université de la cuisine, c'est ici, le Basque Culinary Center aussi.
Alors le Basque Culinary Center, c'est une l'université de la gastronomie. Et c'est tellement connu que vous, Sarah Lamarty, vous êtes venue de Bruxelles jusqu'à Saint-Sébastien pour apprendre. Et pour apprendre quoi ?
À l'université, on apprend bien plus que la gastronomie. On apprend tout ce qui est économie, gestion, management. On a des cours en anglais. On n'est pas juste cuisiné, on est bien plus que ça.
Mais alors, qu'est-ce qui fait, en quelques mots, comment vous définiriez-vous, qui le découvrez de l'extérieur, cette gastronomie basque ? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres ? Jocelyne Fernandez va venir à votre secours.
Je ne suis pas spécialiste, mais je dirais qu'il y a un mélange plutôt parfait entre la tradition et la modernité et l'innovation, surtout, je pense. Très récemment, j'étais au Festival de Berlin avec mes collègues du Festival de Saint-Sébastien, et là, ils ont toute une section de cinéma et gastronomie que nous avons importée ici, puisque c'était presque nécessaire, n'est-ce pas ? Et là-bas, il y avait, par exemple, l'un des grands cuisiniers basques qui s'appelle Andoni Luis Aduriz, qui a cuisiné pour une centaine d'invités. Et je pense que lui, il nous a expliqué ça. Voilà, il y a une véritable tradition avec des matières primaires qui sont superbes. C'est culturel, absolument culturel. Mais il y a eu aussi une volonté basque d'innover et d'aller vers la modernité aussi de la cuisine maintenant. Donc voilà, je pense que c'est le mélange de tout ça, quoi.
Alors on parle de cuisine moléculaire, parfois même de cuisine chimique. Qui veut rebondir ? Il n'y a pas de cuisine autour de la table.
Oui, 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 mais c'est vrai qu'on peut en parler. Oui, parce que je travaillais plusieurs fois avec Juan Maria Arzak, par exemple. C'est la modernité, c'est la tradition. Je dirais aussi que c'est très important pour la cuisine basque, la qualité des éléments. Normalement, c'est toujours souligné ça, et donc le mélange finalement fait quelque chose de très reconnu mondialement.
Alors, comme on ne peut pas aller tous les jours dans les restaurants étoilés, les Donastaria ont inventé les pinchos. Alors, au départ, il y avait les tapas que l'on trouve partout en Espagne. Les tapas, Rodríguez Armendáriz, en deux mots, les tapas.
Les tapas, c'est comme un rationnement un peu plus grand, et je crois que la différence exquisite du pincho, c'est que c'est plus petit et il y a beaucoup plus de saveurs.
C'est comme un petit sandwich qu'on a.
Oui.
Une bouchée, voilà. Ça, c'est les tapas. Et les pinchos.
Non, c'est les pinchos. Le tapas, c'est une petite ration. De quelque chose,
une petite portion.
Une petite portion, un plat, et le pincho, c'est un bouquet.
Les pinchos se mangent le plus souvent debout, dans un bar, avec un verre de vin. Et avec Anna Incha aussi, j'ai fait la tournée des bars.
Oui, il y a beaucoup de différences d'un bar à un autre. Maintenant, là où nous sommes, c'est un bar traditionnel, mais on peut faire des bars très très modernes, même des bars qui font un peu de la cuisine moléculaire. Donc il va y avoir une grande différence d'un bar à un autre.
Et donc ça, c'est une tradition. Comme on est passé des tapas aux pinchos, à la fois ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir.
Les tapas pour nous, pour les gens de Saint-Sébastien, c'est ce qu'on appelle une ration. Par exemple, l'ardoise de jambon, parce que c'est bien présenté sur une ardoise, ce serait un peu l'équivalent des tapas. Et le pincho, ça veut dire le cure-dent. Donc certains des pinchos, ils ont un cure-dent, juste pour les soutenir. Ça a été un peu l'évolution qui a commencé à partir des années 50. Dans les dernières années aussi, il y a eu pas mal de jeunes qui voulaient avoir un restaurant, ils avaient fait des études de cuisine, et peut-être ils n'avaient pas l'option d'ouvrir un restaurant, et donc ils ont ouvert un bar à tapas, un bar à pinchos.
Ça fait partie de l'art de vivre des Donostiarres.
On y va très très souvent, parce que pour nous c'est plutôt l'apéritif, donc on va y aller avant de rentrer à la maison, souvent avec les collègues du travail, on va y aller, on va sortir, on va prendre un verre, on va prendre un pincho et après on va partir.
Quand on est à la tête d'une quadrilla, on va dans les bars à pinchos. Anne Rodríguez Armendáriz.
Oui, bien sûr. Quand on sortit dans le midi, avant de manger, et on peut avoir un vin, mais on l'accompagne toujours avec un pincho. Et c'est quelque chose qui aide à boire aussi le vin, non ? Parce que pour moi, avec l'estomac vide, c'est un peu plus difficile. Et c'est vrai que c'est une manière de tester et d'avoir des différentes petites choses à manger. Et c'est une manière de tester aussi, non ? Alors, la cuisine.
Je m'adresse à la directrice de Dalta Bacalera, qui est donc un centre d'art contemporain. Un pincho, c'est souvent très joli.
C'est joli et avec beaucoup de couleurs aussi.
Les pinchos, pour vous, c'est quelque chose qu'on mange exceptionnellement chez Abipaya ou c'est vraiment...
Comme la vie, c'est exceptionnel pour nous. on peut en avoir toujours. C'est vrai que, oui, je dirais que c'est très normal. Peut-être parce qu'ici, et pour les francophones qui nous écoutent, c'est toujours intéressant de savoir que peut-être ici, on n'a pas le repas à midi. C'est un peu plus tard. Donc, ça peut être 1h30, 2h. Donc, à 11h du matin, un pincho peut être magnifique, quelque chose de sublime à ce moment-là. Et juste peut-être pour une petite curiosité sur l'étymologie des mots, tapa, en espagnol, ça veut dire couverture. Et c'était parce que les tapas, normalement, ça vient pas, peut-être ici, on l'utilise pas beaucoup, c'est plus de l'Espagne du Sud. Et c'était parce qu'il fallait couvrir, on allait couvrir le verre avec un plat, avec la ration, le rationnement. Le pincho, c'est une baguette ou une cure-dent, je ne sais pas
un comment cure-dent,
dire
ça. Un cure-dent.
Et donc, on va l'utiliser pour ramasser tout ensemble. Donc, voilà la différence entre l'une et l'autre.
Alors, on peut faire des pinchos avec à peu près tout. Hein. Justine Fernandez, on peut avec du poisson, de la viande, des œufs. Enfin, on peut être très inventif.
Oui, une fois de plus, hein, on parlait d'innovation et d'une volonté réelle de mélanger tradition et modernité, n'est-ce pas? Et je pense que les pinchos sont un peu ça, et aussi une volonté de développer une convivialité qui est certaine à Saint-Sébastien, n'est-ce pas? Parce que quand on traverse de bar en bar toute une rue en mangeant des pinchos, bah là c'est la convivialité pure et dure, quoi.
Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture et capitale mondiale des pinchos. Comment se sent-on européen à Saint-Sébastien? On est basque, espagnol, européen. On se situe comment, Abipaya?
Je crois qu'on peut être tout ensemble, finalement, parce que c'est ça ce qu'on doit trouver. C'était en 1985 que Melina Mercouri a proposé le projet des capitales européennes de la culture. L'identité européenne, si ce que ça existe, je crois qu'on doit la construire tous ensemble. On va faire notre apportation pendant cette année à la culture européenne et il peut avoir plusieurs caractéristiques à l'identité de chaque Donostiarra.
Rosane Fernandez, européen, basque, espagnol, dans quel sens?
C'est-à-dire que ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs sensibilités au Pays basque. Et bien évidemment, il y a ceux qui se considèrent basques et européennes, et européens, et basques, espagnols et européens, sans doute. Il faut bien évidemment, d'un point de vue démocratique, tout respecter, n'est-ce pas? Quand on parle de vivre ensemble, ça voilà, de vivre ensemble avec des différentes identités. Et ça ne devrait pas être très problématique, n'est-ce pas? Parce que je pense que le contraire, on a parlé juste avant de l'ETA, etc., qui était terrible et terriblement antidémocratique, n'est-ce pas? Parce que voilà, il fallait, je pense, et il faut respecter absolument toutes les identités. Par contre, voilà, il faut savoir qu'au Pays basque, il y en a de très différentes.
L'indépendance est toujours d'actualité?
Je ne suis pas homme politique, là je laisse, je passe la parole.
Alors, on va pas à Mireille. Balle au centre, on dirait.
Non, mais bien sûr, de la même façon que je viens de parler de différentes identités, je pense qu'il y a différents projets politiques au sein de la société basque et l'indépendance en fait partie.
Mirane Escarté, l'indépendance, toujours d'actualité ou pas?
Bon, ça dépend. Qu'est-ce que vous considérez d'être d'actualité? Peut-être qu'à présent, on ne parle pas...
Les Catalans, par exemple, ont imaginé un référendum.
Bon, pour moi, la chose la plus importante, c'est de respecter toutes les opinions et pouvoir discuter et respecter la volonté de la majorité. Il y a une chose aussi très, très importante qui est à présent la plus grande difficulté que Catalogne est en train de passer, permettre que les Basques, les Catalans, les Espagnols peuvent se manifester, peuvent être consultés et peuvent exprimer quel est leur désir, leur volonté pour le futur. Et j'aimerais bien, de ce point de vue-là, et moi et beaucoup de gens dans ces pays, soient-ils indépendants ou non, le droit d'être consulté, je crois que c'est une question. Et la discussion de l'indépendance, c'est une autre question.
On arrive au terme de cette émission. D'un mot, en quelques secondes, une bonne raison de venir à Saint-Sébastien en 2016. Abipaya.
En 2016, la capitale européenne de la culture.
Anena Rodríguez Amendoriz.
Les programmes culturels de la ville.
Rosiane Fernandez.
Saint-Sébastien a été toujours une ville de culture. Cette année, elle va l'être encore davantage et elle restera toujours une ville de culture et, je tiens à le dire, de cinéma aussi.
Mirène Ascaraté.
Pour connaître une vie merveilleuse.
Et Sarah Lamartine, bonne raison.
La gastronomie est le kilomètre zéro.
Et puis j'ajouterais que la ville est particulièrement belle, il y a des plages des plages au cœur de la ville et c'est particulièrement agréable. Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe ici à la Tabacalera de San Sebastian. Merci aux équipes de San Sebastian 2016. Technique réalisation Bertrand Éclair. Sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI, le podcast et plein d'informations sur nos invités et San Sebastian. On reste en contact bien sûr grâce aux réseaux sociaux Facebook et Twitter. Où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde.
On se quitte en musique, capitale européenne de la culture oblige, avec Rodrigo Samano. Il est mexicain, il est violoncelliste et il est étudiant à la Musicana, qui était la haute école de musique du Pays Basque. Il nous interprète une première suite de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle qui s'appelle Giga. On l'écoute. Thank you.